Grande Séance, votre émission 100% cinéma, chaque premier mardi du mois, en direct, avec le journaliste Bruno Kras, ses blogueurs et la chronique d'Antoine Cyr.
Alors, le sommaire de l'émission, toujours intéressant, on va voir dans un instant les tops et les flops. Ensuite, vous, mes chers amis blogueurs, vous aurez votre mot à dire, comme d'habitude. Et je sais qu'il y a des choses passionnantes ce soir. On retrouvera notre invité Arthur pour parler de tout, de sa carrière,
de tout. Absolument.
Avec Arthur, on peut parler de tout, sans langue de bois. De Gus, parce que Gus, Petit Oiseau, Grand Voyage, c'est un super beau dessin animé français. Moi, j'en ai un petit peu assez du côté plastoc et caoutchouc des dessins animés américains. Vous verrez que Gus, c'est soigné, c'est beau, c'est coloré. Et Gus est un petit oiseau, un petit échassier des marais, dont la voix est faite par Arthur Dupont. Et la voix de la petite copine, c'est Sarah Forestier.
Exactement.
Voilà, vous allez nous dire comment
et
ça
s'est... Et il y a Pierre Richard aussi,
ouais,
et
Bruno Salomon, absolument.
Et d'autres acteurs de doublage dont je ne connais pas vraiment les noms, mais qui ont des superbes voix.
Au niveau des événements, on parlera des Césars, des Oscars et du Mobile Film Festival. Et vous nous en direz un mot, Arthur Dupont, parce que vous avez été candidat. Enfin, vous avez fait le Mobile Film Festival.
Ouais. L'année dernière et cette année aussi, on a été sélectionné. Enfin bref, vas-y.
Ouais, c'est bien, vous raconterez. Le débat, ce sera tout simplement les trophées, les autres prix du cinéma. On est en plein dedans, là. On a bientôt les Césars, on a bientôt les Oscars, on a eu les BAFTA, les Golden Globes, etc. Et on se demandera à quoi ça sert. Justement, Arthur pourra intervenir parce que lui, il a été nommé dans la catégorie meilleur jeune espoir pour Buzz Palladium. Il nous dira s'il avait le trac et s'il avait des déçus de pas l'avoir. Enfin, tout, quoi. Et puis, on fera un blind test sur les films qui ont été au César, qui sont au César en 2015. Ça sera amusant parce que c'est des films connus que vous avez vus pour la plupart et il faudra deviner. Donc dans un instant, on parle des tops et des flops.
Tout de suite dans la grande séance, les sorties ciné.
Alors au top, c'est toujours, excusez-moi, mais c'est toujours la famille Bélier. Parce que voilà un film qui renaît de ses cendres. Il a été un peu en baisse, évidemment à cause des attentats, où cette semaine-là, ça a été terrible, évidemment, pour le cinéma, puisque plus personne n'allait dans les salles. Il est reparti. Là, je crois que la semaine dernière, il avait 4% de plus d'entrées, alors qu'il en est à sa, je sais pas, énième semaine. Et il est à 5 500 000 entrées. Et j'ai fait un petit calcul. Les vacances de février, première zone, commencent samedi prochain. La troisième zone se termine le 9 mars, donc un mois de sortie cinéma. Le film, si mes calculs sont bons, devrait frôler les 8 millions d'entrées dans un mois et demi. Eh oui, je pense
énorme,
que le film... Oui, parce que là, il est parti à raison de 500 000 entrées par semaine. Ça continue pour la famille Bélier, donc c'est le top. Il n'y en a pas d'autre côté français.
Vous avez largement gagné votre pari.
Ouais, moi j'avais dit 3 millions 7. Je suis dépassé.
On est loin.
On est loin. Ouais, mais personne n'avait prévu. Personne n'avait prévu qu'il irait aussi loin quand même. Le flop, alors là, c'est terrible. Ça, je vais sans doute vous l'apprendre, Arthur. La rançon de la gloire, le film de Beauvois, qui est son film après Des hommes et des dieux, il n'avait pas fait entre-temps, je crois, 42 315 entrées en 4 semaines.
Donc, et combien de copies?
Au début, il y avait pas mal de copies. Après, ils les ont retirées une à une. Mais au début, il est sorti quand même de façon assez... il n'y avait aucun problème. Mais c'est vrai que le film n'a eu ni les honneurs de la critique, ni les honneurs du public.
Pourtant, pour une fois qu'il faisait une comédie, malheureusement.
Ouais. Et puis il y avait Benoît Poulvord dedans. Et c'était pas mal comme film en plus. Ça ne méritait pas du tout cette indignité. Y a un autre film qui est un flop, avec pourtant Fanny Ardant en vedette, c'est Chic, de Jérôme Cornuau, qui est sorti aussi il y a pas mal de temps, je crois il y a 4 semaines, puisqu'il est sorti en décembre. Aucune promo, oui, il est sorti un peu dans la profil bas. 64 000 entrées. Et puis il y a un autre film, alors qui ne promettait pas des spectateurs extraordinaires, mais qui est un joli film quand même, où il y a une très belle prestation de Cadmerade, Disparu en hiver, qui est sorti il y a 2 semaines, et qui est à 39 000 entrées. Donc 3 gros échecs français. Côté top... du côté des Américains, c'est exceptionnel, mais j'ai pas vu de top aux États-Unis.
Si, il faut quand même noter très beau succès d'un film que j'adore, qui est un film sensationnel pour moi, qui s'appelle Whiplash, le film de Damien Chazelle, qui en est à plus de 500 000 entrées.
Ouais, c'est
pour
bien,
un
c'est
film
vrai.
Indépendant américain, sans acteur connu, sorti au moment de Noël. C'est exceptionnel, surtout avec un bouche-à-oreille qui ne cesse de progresser. Donc, c'est
vrai.
Vraiment très réjouissant.
Et d'ailleurs, vous me faites penser que j'ai parlé dans les tops de la famille Bélier, mais j'aurais dû parler quand même, parce qu'il le mérite, de Timbuktu, Mauritanien qui est quand même pas une grosse comédie, hein, et qui est à 700 000 entrées.
Et beaucoup et qui de continue, succès,
et beaucoup de nominations. Et beaucoup de nominations, et qui, peut, et qui peut aller tout doucement vers les 800 000 ou 900 000 entrées. Donc Thibaut Tous, c'est une bonne surprise. Alors du côté des flops américains, alors, décidément, sa carrière bat de l'aile. Vous avez de qui je parle?
Johnny Depp.
Bravo, bravo Tiffany. Bah oui, Johnny Depp, Charlie Mordecai, que personne ne va voir, pardon, je souris, je ne devrais pas. 176 000 entrées en deux semaines pour un film avec Johnny Depp, c'est pas beaucoup quand même.
C'est vraiment il y a une remise en question.
Qui a vu Charlie Mordecai?
Non, non, pas vu. Non. Franchement, pas envie de voir.
Depuis qu'il a quitté Vanessa, je vous l'ai dit. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair.
Oh, c'est dégueulasse.
Non, non, mais, non, mais c'est vrai, elle le tenait quand même. Tenez, il jouait à la pétanque dans le sud de la France.
Moi, je l'ai vu dans Into the Woods.
Ouais.
Et il est super dedans.
Oh c'est non, Johnny Depp.
Oh, je l'ai trouvé très bien.
Qui ça, Vanessa Paradis ou Johnny Depp?
Johnny Depp, je l'ai trouvé très bien dedans.
Il apparaît deux secondes. Ah oui, il peut être bien.
Bah, plus que deux secondes. Bah, je vous mets au défi, allez, Antoine, d'apparaître plus que deux secondes et d'être aussi bien que Johnny Depp.
Bravo. Bien répondu. 1-0 pour Arthur.
Ça commence comme ça.
Voilà. Ah non, ça commence très bien. Non, il n'y a rien, tout va bien.
Alors, Foxcatcher, autre échec quand même, parce que c'était un film qui était à Cannes. C'est plutôt un beau film.
Oui, moi, c'est préféré, vraiment dommage, mais je pense que le sujet était peut-être un peu américain dans son... Voilà, c'est l'histoire des frères Schultz, peut-être très sombre, très intimiste, c'est vraiment dommage parce que c'est un film assez exceptionnel.
Ouais, et puis moi ce que j'avais trouvé, si je puis me permettre, parce que j'attendais beaucoup de Bennett Miller qui avait fait un super Truman Capote, c'est que le sujet est magnifique, très dérangeant, avec ce côté très intrusif de ce type, à Steve Carell. Et je trouve que ça aboutit à un film bien fait, mais qui n'est pas bouleversant, dérangeant, inquiétant comme il pourrait l'être. Parce qu'il est sujet sur le papier, c'est quand même quelque chose. Et je trouvais que le film n'était pas aussi fort qu'il en a l'air. Dans un instant, on se retrouve et la parole sera à vous, les blogueurs.
La grande séance, l'interview.
Alors, Antoine, honneur au petit nouveau, vous voulez rendre hommage à un grand cinéaste, et voilà, c'est ce qui arrive dans les médias, il est mort, et personne ne s'en est aperçu. Moi, en tant que journaliste à Europe 1, on ne m'a même pas demandé un papier, alors que Dieu sait s'il méritait vraiment qu'on parle de lui, c'est Francesco Rosi.
Oui, il est mort le 10 janvier, il avait 92 ans, ça faisait évidemment longtemps qu'il ne tournait plus, mais si on doit en parler, c'est que c'est un cinéaste qui a vraiment marqué de son empreinte le cinéma européen des années 60-70, particulièrement le cinéma italien. C'est presque l'instigateur, voire le créateur de ce qu'on a appelé le film dossier, dans lequel dans ses films, que ce soit Main basse sur la ville, L'affaire Mattei ou Cadavres exquis, il a parlé de son pays, de l'Italie, de la corruption, de la mafia, de l'accointance des politiques avec la mafia. Et il l'a fait avec un souci à la fois d'efficacité, d'enquêteur, de journaliste, et en même temps avec un vrai sens du romanesque. Et c'est ça qui en a fait des films vraiment importants, parce que l'efficacité qui était la sienne dans pas mal de ses films était aussi quelque chose de très captivant. L'affaire Mattei, c'était l'histoire du patron de la pétrochimie qui est mort dans des circonstances mystérieuses. Et rappelons que ce film a eu la Palme d'Or à Cannes quand même en 72. Et Rosine explore cela, mais avec beaucoup, beaucoup de force et sans non plus donner de clés. Et c'est ça qui est la grande réussite de ces films, c'est que ces films sont toujours opaques. On ne sait jamais vraiment qui se dissimule derrière tous ces complots. Et c'est pour ça que ce sont des films qui ont beaucoup marqué. Ce cinéma là, nous manque un peu. Et je trouvais que c'était une bonne occasion, puisque la semaine prochaine sort le film de Vincent Garanque, L'Enquête,
Qui parle
plutôt bien de l'affaire Claire Stream. Et de tout son imbroglio incroyable à travers le parcours du journaliste Denis Robert. Et je trouve que c'est un film qui s'inscrit bien dans la tradition de Francesco Rosi. Voilà, ce cinéma d'enquête que Yves Boisset et Costa Gavras ont aussi fait en France à cette époque-là. Et donc, je trouvais un peu dommage qu'un tel cinéaste, que sa mort ait un peu passé sous silence.
C'est très bien de lui avoir rendu hommage. Tiffany.
Oui, alors moi, c'est un tout autre sujet. Kingsman de Service Secret de Matthew Vaughn.
Que je n'ai pas encore vu, que je vais voir la semaine prochaine.
Voilà, alors pour moi, c'est un gros coup de cœur. Bon, déjà, à la base, je suis une fan de Matthew Vaughn qui avait donc réalisé Kick-Ass, X-Men, Le Commencement. Et Kingsman, on retrouve beaucoup de Kick-Ass dans Kingsman. Il dépoussière le film d'espionnage, une espèce de James Bond sous acide, j'ai envie de dire.
Avec Colin Firth?
Avec Colin Firth. Alors Colin Firth, on ne l'a jamais vu comme ça. Il est, c'est l'espion le plus stylé d'Angleterre. Voilà, plus stylé que James Bond, c'est possible, oui.
Et il pourrait faire un James Bond d'ailleurs. Hein. Ça, il pourrait le faire.
Oui, il pourrait.
Il pourrait. Élégant, ouais, smart. Bah,
tout à fait ça dans le film. Donc voilà, en fait, c'est comment dire, c'est voilà, ça déménage, ça s'arrête pas une seule seconde. On en prend plein les yeux, les oreilles. Et pour moi, c'est vraiment la claque ciné de la rentrée, quoi. On est voilà, c'est vraiment
avec
un cocktail
Birdman,
explosif.
Parce que je l'ai pas encore vu, mais à propos de Mann. Birdman, d'Inarritu, tout le monde en parle, hein, comme un grand. Qui l'a vu ici, là?
Oui, je l'ai vu.
Alors?
Et
c'est un choc.
Mise en scène étincelante, parce qu'il a fait un faux plan séquence de 2 heures. Mmh. Donc, techniquement, c'est impressionnant. Je suis un peu plus réservé sur le fond du film, mais ouais, les acteurs sont extraordinaires. Et tous.
Michael Keaton
en tête.
Oui, Michael Keaton, mais moi, j'ai trouvé qu'il était quand même un peu surestimé, le film. Enfin, on en a fait tout un plat, ouais, mais ouais, je le trouvais quand même plus,
ouais, oui,
plus lisse que. Mmh.
Ouais, c'est une belle histoire, hein, l'histoire d'un type justement comme lui, qui avait fait
Batman. Ce qui est intéressant, c'est une mise en, voilà, la mise
en
abyme.
C'était Birdman, une ancienne star de super-héros, voilà, sur la touche et
qui remonte sur les
planches.
C'est
planches,
presque autobiographique. Quoi.
Ouais, c'est ça, c'est presque autobiographique.
Voilà, donc Kingsman, c'est vraiment un film hilarant, insolent. C'est vraiment british, quoi, dans toute sa splendeur. Et, donc, mais hormis Colin Firth, la vraie star du film, c'est quand même Samuel L. Jackson, qui, après Django Unchained il y a 2 ans, il prouve une nouvelle fois tout son génie comique. Il est hilarant. Faut vraiment, en fait, aller le voir pour lui. Enfin, moi, j'ai pas arrêté de rire pendant 2 heures grâce à Samuel L. Jackson. Donc, une petite pépite et qui impose Matthew Vaughn comme le réalisateur le plus cool d'Hollywood.
Antoine Corté, cette
oui,
fois.
Oui, alors on me dit très régulièrement que je ne parle pas assez de sexe à la grande séance. Et donc je veux profiter de cette petite chronique pour parler des blockbusters du cinéma qui sont tirés de films et qui vont...
Et donc je vous vois venir là.
Et j'ai
les 50 nuances degrés, c'est ça?
Les 50 nuances degrés.
Vous l'avez pas vu encore quand même?
Non, je ne l'ai pas vu parce que je me réserve la soirée de la Saint-Valentin pour ce magnifique film. Mais il faut quand même s'interroger. Je sais pas, Arthur, tu l'as lu, toi?
Non, je l'ai pas lu. Vous, tu l'as lu? Vous l'avez
on
lu?
On a parlé.
Antoine,
j'ai lu quelques passages les
mais
plus
tout
intéressants.
Tout le monde n'a lu que quelques passages.
Moi, j'ai
les meilleurs.
Pages.
C'est, vous avez lu combien?
100 pages.
Et... Ah, Tiffany, voilà. Alors.
Ah non, mais c'est
et
horrible.
Le reste, vous
c'est
horrible.
Torture, hein, ce livre.
Ah bon,
c'est mal écrit, c'est
indigeste. C'est très excitant.
Bon, non, même pas, c'est décevant. Même.
Ah bon, d'accord. On va voir ce que ça donne au cinéma.
C'est quand même 40 millions d'exemplaires qui a été vendu. Et,
et le film est attendu comme le loup gris.
Voilà, Richard Patry nous disait la semaine dernière qu'au niveau des pré-réservations, dans tous
incroyable.
Les cinémas de France, même en province, dans les petits cinémas, c'était blindé. Voilà, c'était le film.
Il y a 700 salles
attendu,
quand même. Hein.
Voilà, il y a 700
copies,
salles,
ouais,
wow.
C'est pas rien. Hein.
Voilà. Et donc, du coup, effectivement, et j'apprends d'ailleurs aujourd'hui que le comité de classification aux États-Unis l'avait classé moins de 17 ans non accompagné, ce qui
ça
est
va.
Assez soft.
Ouais,
pour,
soft
voilà.
Mais par contre,
ça va être
Bibliothèque Rose, là.
Au Royaume-Uni, il vient d'être interdit au moins de 18 ans.
Ah,
et donc là, ça promet quelque chose d'un peu plus intéressant.
Les Britanniques sont prudes.
Et voilà. Alors nous, on attend la réponse cette semaine, donc on va voir. Au-delà de ça, effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que les blockbusters, beaucoup sont tirés de sagas littéraires. Et effectivement, depuis le début des années 2000, on en a plein. On a Le Seigneur des Anneaux, on a Harry Potter et
Twilight,
voilà. Et effectivement, c'est
Hunger
un peu
Games.
Dans cette même veine, c'est-à-dire que 50 nuances degrés, je suis pas sûr que ça soit le sexe pour le sexe. Je pense que c'est parce que le livre a fasciné.
Voilà, 40 millions, ça fera des spectateurs. Hein,
exactement.
Voilà, c'est tout.
Donc du coup, je pense que maintenant le cinéma se repose sur des sagas littéraires pour faire des succès en salle.
Le tout, c'est à nous de créer la prochaine saga littéraire. Hein,
ah bah
et de
vite,
devenir riche. Hein.
Vite.
Il suffit de trouver un sujet. Hein, voilà. Mais merci Antoine. Dans un instant, on se retrouve avec notre invité Arthur Dupont.
La grande séance, l'interview.
Arthur, alors
Bruno. Parce que
la règle, c'est que même si je connais bien les acteurs, même les acteurs très connus, Johnny Depp,
des noms.
Normalement à l'antenne, on les vouvoie.
Alors,
mais là, on peut
vous,
se tutoyer exceptionnellement.
Je vous vois
mais...
en retour, monsieur.
Ah ouais, on va se vouvoyer. Arthur, donc. Belle carrière. Et comment vous avez commencé? Alors, avant, on va parler de Gus tout à l'heure, mais moi, je connais pas du tout vos tout débuts, et je sais que vous avez commencé à 16-17 ans dans des feuilletons télé.
En fait, moi, j'ai commencé le théâtre à 8 ans.
8, ah, carrément 10...
Ouais, mais comme on fait du tennis, du vélo, enfin du vélo si on est en club, du piano, voilà. Et moi, je faisais du tennis, du piano et du théâtre. Parce que mes parents voulaient absolument que mes sœurs et moi, on soit occupés, qu'on touche à plusieurs choses. Et on pouvait le faire, donc on le faisait. Et ça, avec grand bonheur, quoi. Mmh. Et puis,
mais entre faire du théâtre au lycée et arriver dans un casting...
Par hasard, ma route a croisé celle des Sales Gosses, qui était une compagnie d'enfants professionnels.
Ouais.
Et je suis resté pendant 3-4 ans dans cette compagnie de théâtre. Et puis, à mes 13-14 ans, je suis rentré au cours Simon.
Ah oui, beau cours de théâtre.
Ouais, mais juste le mercredi, 3 heures le mercredi. Mais voilà, c'était vraiment un... Comment dire, j'étais plutôt jeune, là, j'avais 14-15 ans, donc c'était pas professionnalisant. Mais en tout cas, c'était beaucoup de plaisir que j'avais à faire du théâtre, à travailler, mine de rien, même si c'était un loisir, c'est du travail. On expérimente, on recherche, etc.
Vous travaillez sur les grands textes, en plus.
Oui, 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 carrément, sur des textes classiques et des textes contemporains, mais voilà, sur vraiment un panel assez large. Et puis là, j'ai été vu par un monsieur qui s'appelle Christophe Averland, qui dirige un site internet super intéressant, j'en parle là, ça s'appelle Médiane Art et Communication, qui est en fait un site internet qui met en lien... tous les acteurs du cinéma et du spectacle vivant. Donc, il y a autant des acteurs, des compositeurs, des scénographes, des metteurs en scène, peut-être même des producteurs qui cherchent à trouver de nouveaux projets, etc., des scénaristes, enfin bref. Et ce mec-là m'a vu là-bas, il m'a fait passer au bureau, il m'a dit écoute, j'ai un site où j'ai des acteurs qui viennent se mettre dans ma liste, un listing, et puis comme ça, c'est visible sur internet, comme ça tu peux peut-être avoir des contacts, tourner, trouver du job, quoi. Et puis après ça j'ai rencontré mon agent, qui était son agent à lui en tant qu'auteur, etc., etc. Et à partir de 16 ans, bah, j'ai commencé à passer des essais pour de la télé, et puis j'ai commencé à tourner un téléfilm, deux téléfilms, jusqu'à en faire pas mal en fait. Et puis à prendre beaucoup de, comment dire, d'expérience.
Ça a commencé avec plateau. Julie Lescaut, non?
Alors ouais, le premier, j'étais en roller et je jetais des œufs sur une voiture de flic.
Ah.
Chose que je n'ai jamais fait, maman, je te jure, je l'ai jamais fait en vrai. Mais là, j'ai eu le droit grâce à Julie. Et enfin voilà, plein d'expériences.
Père et mère avec Christian Roth. Voilà, Christian Roth. C'est super. Ouais.
Et puis voilà, et puis jusqu'à faire ma première apparition au cinéma. Il faut rendre honneur aux directeurs de casting qui, grâce à eux, quand même, les acteurs peuvent des fois vraiment avoir accès à un rôle parce que c'est eux, et c'est aussi les réalisateurs, mais c'est vraiment eux aussi qui font le boulot de faire connaître les acteurs,
ouais.
de leur donner une chance à un moment donné parce qu'ils estiment que, ah bah tiens, lui, ça serait bien. Enfin, comment dire, dans ce rôle-là.
Mm.
Parce que moi, je venais de la télé et a priori, je sais pas,
c'est cloisonné.
Qu'est-ce qui a fait
décoller ? En fait, on dit ça, mais c'est les directeurs de casting qui peuvent faire ça, qui peuvent vraiment faire décloisonner. Mm. Parce que pour moi, c'est un peu idiot, en fait. Parce que surtout qu'aujourd'hui, la qualité des séries télé, c'est pas la même que, pardon, mais qu'il y a 15 ans, quoi. C'est pas la même. Il y a une, je sais pas, une qualité, une acuité, comme ça, on essaie d'être un peu plus réaliste avec même l'image qui est proche des longs métrages, ouais. Et même les histoires, quoi.
Mais vous trouvez que la cloison elle se sépare entre cinéma et télé aujourd'hui par rapport à il y a quelques années?
Toujours un peu.
Elle est toujours là, peut-être, sûrement, mais je sais que les directeurs de casting, par exemple, ils font par exemple ceux qui travaillent vraiment dans le cinéma. Ils peuvent avoir aussi des projets à la télé, mais après, ils choisissent. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire tout le casting de la saison 29 de Mimi Mati, Ange Gardien, peut-être pas. Mais ils vont faire, ils appellent ça, tu sais, les séries privilèges ou prestige, prestige. Un téléfilm avec des têtes d'affiche, parce que le scénar est bon, parce que juste le scénar est super bon, que ce n'est pas un film qu'on va destiner au cinéma, mais c'est un film qu'on va destiner à la télé. Parce qu'aujourd'hui, bah, moi j'estime qu'il y a des choses super bien à la télé, parfois. Et des choses super nulles au cinéma, parfois aussi.
Dupont est pris par le cinéma et qui fait des rôles. On en parlera tout à l'heure. Il va jouer Kerviel dans le prochain film de Christophe Baratier. On te propose moins la télé. Et t'as moins le temps. Il faudrait qu'on te propose un très beau rôle à la télé maintenant.
Bah là, dernièrement, j'ai eu une proposition et malheureusement, j'ai pas été pris. Mais
tu aurais dit oui.
Mais bien sûr. Ouais, ouais. Mais moi j'avais dit oui parce ouais. que parce que j'ai lu le scénario, parce que parce que ça m'intéressait. C'était un rôle en costume à faire un enfoiré de première de sang royal et
ah, c'était quoi,
espèce
alors,
de saloperie.
Versailles.
C'était Nicolas Le Floch
Nicolas Le Floch.
Oui. Et j'aurais été ravi. Mais c'est comme ça. Et là je salue David Subtil et Philippe Béranger. Pour leur dire que c'est normal, en fait, c'est des choix à faire et c'est des choix pour les films qu'on fait. On fait pas un choix pour un acteur, c'est pas pour lui faire plaisir. On fait un choix parce que c'est pour faire un film et ça faut le comprendre à tous les comment dire à tous les postes. Donc voilà, c'est normal. C'est le jeu, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il y a des auditions et des choix à faire. Faut bien en faire.
Dans les films et dans les rôles importants que tu as eu, il y a eu Bus Palladium.
Ouais.
Ça a été un film important parce que c'est musical et tu fais de la musique.
Ouais ouais et bah oui
bah, c'est ça qui est drôle
bah ouais.
Moi,
je l'ai vu dans des festivals
bah bientôt
ah, on ouais. avait tout préparé pour qu'il nous fasse un bœuf là il y avait
ouais, les gars non là
ici à radio tout le micro était prêt mais il est pas venu avec sa guitare
non,
il
non,
a
non.
pas osé
non non
il
mais non mais chaque fois. Chose en son temps parce que ouais, ouais effectivement si bah
ouais
voilà c'est voilà,
tu, mais tu as des projets
voilà
musicaux.
Il y a un projet musical avec mon meilleur ami avec qui on fait de la musique depuis maintenant 8 ans ensemble et puis là il y a quelque chose qui se crée vraiment concrètement. On a de côté 14-15 morceaux qu'on a enregistrés en pré-maquette tous les deux, un peu proprement, où on s'est pris vraiment des moments, un mois et demi tous les deux. On est parti au Portugal dans sa famille, et puis on a bossé, et on écrit les textes tous les deux en français, on compose, et puis voilà.
Et puis
il y a un projet qui devrait voir le jour, en tout cas en studio, vraiment professionnel. Courant avril, voilà, on est en train d'un peu voir, mais c'est beaucoup de logistique et puis c'est de l'autoproduction. Ouais. Donc,
on veut des exclus pour nos blogs. Hein.
Très bien, Antoine.
Alors, autre voilà. question venant de la part d'un jeune comédien qui va fêter ses 30 ans
en juillet
2015. Ouais. Comment c'est de travailler avec les Jaoui Bakri qui sont quand même des mythes. Alors toi tu as vu je me suis remis à le tutoyer de façon spontanée.
Ouais,
toi tu as joué le prince charmant
ouais.
dans Au bout du compte
ouais.
avec Agathe Bonitzer
ouais.
si je me souviens bien.
Ouais. Et Nina Meurice.
Alors ils sont considérés comme assez maniaques et précis au niveau de l'intonation, au niveau de tout hein. C'est ça hein.
En fait, ils sont pas précis au niveau de l'intonation, ils sont précis en termes de sens.
Ouais.
Donc, si toi, ton sens, enfin, le même sens qui est dans le texte, vraiment le sens du texte, si toi, tu l'interprètes à ta manière, mais que le sens est le même, mais c'est bien,
ouais.
ils vont le prendre.
Ouais, mais il faut attention au sens.
Moi, je pense...
Comme ils écrivent.
Moi, en tout cas, chez Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, l'acteur n'est pas une marionnette. Hmm. C'est pas une meupette. On met là et dit le texte comme ça et comme ci et comme ça et tu sors là et tu s'en vas. Merci, salut. C'est pas ça du tout. Au contraire, c'est que l'acteur a des contraintes bien définies et c'est des contraintes qui sont nobles. C'est un texte, un beau texte.
Il faut respecter le texte.
C'est
à la virgule.
Ils ont mis, ben, tu vois, pour faire un film, ils mettent 4 ans pour écrire un film où je dis ça comme ça, mais je crois que je me trompe pas. Entre 2 ouais. et 4 ans. Mais du coup, quand un texte est écrit comme ça et ciselé de cette manière. Parce qu'ils sont pris la tête, je pense, en 4 ans. Ils ont pas écrit comme ça, et puis ils ont passé 3 ans et demi à regarder le dossier, quoi, non. Donc, en tant qu'acteur, il faut respecter ça.
Surtout dans ce film, finalement, qui n'est que métaphore. Enfin, je trouve le film, il faut aller le regarder, parce qu'il est exceptionnel, je pense. Et votre prestation aussi l'est. C'est un tout. On retrouve vraiment l'ambiance Bakri-Jaoui.
Mais ils sont brillants, et quand on revoit le film, on s'aperçoit de sous-textes, comme on dit, très, très importants. On dit, tiens, on l'avait vu, mais il y avait ça aussi.
Mais il y a plein de détails, même dans les décors.
Ouais.
Je sais que le décorateur. Le décorateur, l'accessoiriste, parce qu'après, les accessoires sont finalement le prolongement du décor dans des petits détails, dans l'image. Mais il y avait plein de grenouilles. Enfin, la grenouille, il suffit qu'un bisou juste pour
que devienne le prince.
Voilà, pour qu'elle se lève. Il y avait des couronnes partout. Enfin, des petits détails qui faisaient que c'est effectivement à la. Peut-être même à la 10e vision du film, que tu as une autre lecture, tu dis « Ah putain, dans le détail là-bas, c'est génial, au fond de l'image. » Et ça, je trouve ça super.
Alors, puisqu'on parle de d'acteurs et de metteurs en scène, Christophe Baratier, après un long casting, vous a choisi pour un film phare dont on va parler.
Vous venez de passer au vouvoiement.
Oui,
c'est fou. Cette soirée est super.
Dès que je parle de Baratier, dans donc, la phrase.
Et, mais continuons.
Un film qui va se tourner en juin prochain et qui est un film très attendu puisque c'est l'affaire Kerviel.
Ouais.
Et alors, tu ne ressembles pas tellement à Jérôme Kerviel.
Mais à la radio, on pourrait.
Voilà, là, on peut dire.
On peut dire que on peut dire que
donc,
je suis le
casting,
de Jean-Guy.
Tu as travaillé pour passer le casting où il y avait, je ne citerai pas, mais tous les comédiens de 30 ans super connus.
Non, mais en tout cas, moi je sais pas vraiment qui a passé les essais parce que on le sait jamais et puis mais ça sert vraiment à rien.
Il y avait du beau monde.
Il y avait du beau monde, mais comme pour tous les films,
tout le monde voulait jouer Kerviel.
La plupart des films pour lesquels on passe des essais, là surtout où le sujet est un peu chaud. Et puis il intéresse les gens, ne serait-ce que pour aller dire c'est vraiment de la merde. non, mais c'est vrai parce qu'on l'attend au tournant et j'en suis très conscient et Christophe est conscient, Jérôme Kerviel en est conscient, on en est tous conscients.
Ouais.
Mais du coup voilà pour des essais pour un film comme ça, il y a du monde. Mais comme justement il y a du monde, il faut départager. Il y avait 3 heures d'essais et c'était quelque chose et c'est bien pour les comédiens et c'est bien aussi pour le metteur en scène parce que là c'est une vraie rencontre.
Ouais.
Et que si pendant ces 3 heures là ça bloque vraiment sur une direction, sur un truc non malléable de la part de l'acteur, de bloquer un peu sur un truc ou je ne sais quoi, et puis même aussi de ce qui émane naturellement d'un acteur, parce que ça reste un individu qui, même s'il fait un métier, bah il y a quelque chose qui émane de lui, comme nous tous là autour de cette table là, il y a quelque chose qu'on contrôle pas, et c'est soi.
Et dis-moi, pour toi, ça va être un challenge parce que c'est une composition, c'est un vrai travail, c'est un personnage qui existe vraiment, que tu as croisé, que tu as rencontré. Il faut l'incarner, quoi.
Ben oui, mais alors moi, justement, j'ai posé la question à Christophe. S'il voulait que ce soit
une copie,
une incarnation, genre on fait un biopic, et il m'a dit non.
Ouais.
C'est-à-dire que ça sera pas, tiens, on voit Kerviel à l'écran, comme on voyait Ray Charles dans le film
américain.
Non,
ouais.
Donc en fait, non,
c'est une interprétation.
C'est une interprétation.
Voilà.
C'est une interprétation de cette histoire-là,
voilà.
Avec comme conseiller technique Jérôme Kerviel. Et contrairement à ce que moi je pensais au départ, je me suis dit, ouais, putain, super, c'est un peu comment dire, jugé parti là.
Ouais.
Et en fait, c'est pas le cas parce que dans le scénario, et Dieu sait qu'il y a eu beaucoup de versions de ce scénario-là, parce que
c'est compliqué.
Christophe Baratier voulait être précis et Jérôme Kerviel aussi. Ils ont bien raison. Dans ce scénario-là, Jérôme Kerviel, il n'est pas présenté comme un ange descendu de son nuage et puis qu'on a envoyé aux enfers en disant quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Non, pas du tout. Il est conscient de son parcours, il est conscient du contexte de son parcours. Et que dans ce parcours-là, il serait complètement... Bon, mais bon, moi, je ne suis pas avocat, je ne connais pas super bien le dossier non plus, mais en tout cas, on met les choses à leur place. Voilà. Mmh. Et lui, à la sienne, avec les points négatifs, les points qui sont objectifs, donc ni positifs ni négatifs, c'est objectif. Et ce film n'est pas là pour le disculper, ce film est là juste pour raconter une histoire d'un être humain qui se fait prendre au piège de lui-même dans un contexte.
Et d'ailleurs, c'est comme ça que les films deviennent universels. Hein. On parlait hors micro de Imitation Game qu'on avait moyennement aimé parce que ça n'est qu'un récit. C'est pas universel parce que ça raconte une histoire.
Sans point de vue.
C'est très lisse.
Voilà, c'est très lisse. Et pour que Kerviel ou Saint-Laurent ou YSL nous intéresse, il faut que l'histoire soit l'histoire d'un jeune homme qui est pris dans un rouage. Il faut que ça devienne...
Voit ses démons, quoi.
Voilà, et puis il faut que ça devienne universel.
Il faut
que ça devienne symbolique. Il faut qu'on s'identifie.
Bien sûr.
Alors, dernière chose, mais vous allez rester avec nous parce que, et là je vous vois pour le débat et pour toute la fin de l'émission, Gus, Petit Oiseau, Grand Voyage.
Oui.
Est-ce que c'était la première fois que tu faisais une voix?
Ouais.
De dessin animé.
C'est la première fois.
Alors c'est un exercice particulier.
C'est super.
C'est vrai.
Moi j'étais ravi. J'étais vraiment ravi parce que c'est un autre travail. C'est-à-dire que sa voix, on la met dans l'écran et on la met dans un personnage et qui pour
on
le
joue
coup
quand même ou pas.
Ah ouais, bah ouais, on joue et
il faut dire que Gus c'est un sacré numéro.
Tu joues plus même. Ça sature à mort. tu joues plus même. Puisque là moi j'incarne un oiseau. Donc il faut même s'imaginer avoir des ailes, faut que quand il fait une tête un peu folle en dans une situation où il s'esclave.
Tu peux nous faire un petit peu Gus ?
Non,
c'est pas possible.
Non, j'ai une voix en plus. Grave,
alors, c'est Christian De Vita qui a fait le film. C'est un film qui a demandé 2 ans de travail. C'est un film français.
Alors, 2 ans de travail, moi je rectifie ça. Alors, sûrement il y a 2 ans de travail sur quelque chose, mais 8 ans
de
la première idée jusqu'à la sortie, il y a 8 ans de travail. Il y a je sais pas combien de graphistes, d'animateurs 3D. 300, voilà.
C'est intégralement français.
Quasiment. Il y a eu une post-prod en Belgique, mais
et
voilà.
À Valence, ouais,
mais c'est pour les Valence,
ouais.
Non, mais c'est incroyable. Et alors l'histoire, alors c'est un film d'animation très coloré, très beau, que les enfants qu'on peut voir de 7 à 77 ans, parce que même les tout petits peuvent y aller. Et je le disais, les grands s'ennuieront pas, parce que c'est une vraie aventure. Et c'est l'histoire d'un petit oiseau, Gus, qui est inspiré d'un échassier des marais, parce qu'en plus ils ont fait un casting de vrais oiseaux pour pouvoir recréer des oiseaux qui ressemblent à des vrais, des vautours, des pigeons, etc. Un petit échassier.
Et il y a un ornithologue qui a travaillé.
Il y avait un ornithologue qui a travaillé.
Et tu as le nom de cet ornithologue, il s'appelle Guilhem, je ne sais plus comment.
Voilà, absolument, on va retrouver son nom avant la fin de l'émission.
Et qui travaille, voilà.
Guilhem Le Saffre.
Voilà. Et qui a travaillé très précisément. Il a comment dire, dessiné des croquis, pour montrer aux animateurs, qui ne sont pas ornithologues, les mecs, ils doivent animer quelque chose qu'ils ne connaissent pas bien. Donc lui, il était là pour leur montrer comment une aile d'oiseau fonctionne. Pour que dans le film, il fasse fonctionner l'aile et puis le battement, et puis les plumes, etc., pour les faire vivre et que ça ne soit pas faux. Parce que quitte à faire un film vraiment avec des oiseaux, autant coller à la réalité un minimum, quoi.
Et toute l'histoire est vraie, il a contrôlé, parce que c'est des oiseaux migrateurs. L'histoire, je vous la raconte parce qu'elle est trop mignonne. Gus, il est orphelin, il est élevé par une petite coccinelle qu'il appelle Mon Lapin, en plus. Alors c'est un oiseau, il n'a pas de nom. Puis un jour, par accident, il va se retrouver à la tête d'une famille d'oiseaux migrateurs. Il y a une espèce de quiproquo. Il va emmener, lui, il n'est pas du tout oiseau migrateur, il va emmener toute cette famille d'oiseaux, avec toutes les aventures que ça comporte, jusqu'en Afrique, sauf qu'il se trompe de direction, etc. Il y a une petite anecdote qui est drôle. On peut le raconter parce qu'il n'y a pas de suspense. Mais voilà, à un moment, il va être obligé, comme il s'est gouré de direction, de dire aux oiseaux de monter dans un avion pour qu'ils aillent en avion vers l'Afrique. Et c'est une anecdote qui est vraie, car en 1974, il y a des hirondelles qui ont été malmenées par le mauvais temps, et les hommes sont venus au secours des oiseaux, les ont mis dans un avion, et on a emmené les hirondelles en Afrique. Voilà. Ouais. Et ça a sauvé les hirondelles. Il a pris ça, Christian De Vita, comme l'anecdote. Donc voilà, c'est une belle histoire. Et comme les vacances de février approchent, je voulais inviter Arthur Dupont pour en parler, et dire que voilà un film français. Quand on voit les Cars et autres Planes qui font 3 ou 4 millions d'entrées, qui méritent quand même son million d'entrées. Hein. Et qui sort demain. On est en plein dans l'actualité. On se retrouve dans un instant.
Mbale mwalu tombok tu ye ne faso ye Ngo ye ne faso ye Singilu tombok tu ye ne faso ye Ngo de minze no le kase lala Badenya duwe tombok tu ye Sinjia dugu e maliba ye Yangalu yane faso Bye.
koya ene vazo e mba Msindi lu tombok tu yene vazo e Kosini nye sigi joro de bahuna Ngode minze nube kazi la nye De minze nune kazi la emuna Hawe hamina mona nje Hau kanaka siala Malipa dundo
Voilà, c'était un, vous l'avez peut-être reconnu, c'était un extrait de la bande originale de Timbuktu, le film aux 700 000 entrées. Et dans un instant, on se retrouve pour la séquence événement.
La grande séance, l'événement du mois.
Alors l'événement du mois, évidemment, ce sont les Césars et ce sont les Oscars. Pour les Césars, d'ailleurs, le deuxième tour du vote a commencé hier, puisque vous savez que les nommés sont tombés la semaine dernière, on les connaît. Donc, je crois maintenant qu'il y a 6 dans chaque catégorie, hein, c'est incroyable.
7 même,
sept,
dans chaque catégorie.
Et là, on vote pour, évidemment pour le candidat, pour le lauréat. Donc, de mémoire, ben voilà, on sait que Saint-Laurent de Bonello arrive en tête avec 10 nominations. Que les combattants jeunes cinéma de Thomas Caillet avec Adèle Haenel arrivent ensuite avec 9 nominations, que 8 nominations, il y a le fameux Timbuktu, super bien placé. Après, il y a d'autres films. Dans les acteurs et les actrices, ben, on en parlait, mais il y a des jeunes acteurs. Côté catégorie acteur, il y a Pierre Ninet, quand même, qui a à peine 25 ans, qui est à peu près cet âge-là. Il y a Adèle Haenel, côté actrice, qui n'est pas dans les espoirs, mais dans les actrices pour les combattants. Et puis, il y a Karine Viard, il y a Sandrine Kiberlin.
Marion Cotillard.
Et chez Marion les Cotillard. Hommes, et chez les hommes, il y a qui d'autre ?
François Damien.
Il y a François Damien pour Canet la famille aussi. Bélier. Il y a Guillaume Canet pour La prochaine fois, je viserai le cœur.
Gaspard Ulliel
pour Le Saint-Laurent. Pierre Ninet pour YSL.
Et Romain Duris pour le film d'Ozon aussi.
Absolument. Romain Duris pour le film d'Ozon. Marion Cotillard va faire le même exercice acrobatique qu'à l'époque de la Môme, c'est-à-dire qu'elle sera vendredi soir, le 20 février, au César, au Théâtre du Châtelet, et qu'elle prendra l'avion le samedi pour aller aux Oscars pour représenter Deux jours et une nuit, puisqu'elle est nommée dans les actrices. Elle n'est pas nommée par rapport aux meilleurs films étrangers.
Elle est nommée dans les actrices.
Ouais. Avec, d'ailleurs, il y a une petite polémique parce que mon ami Alain Grasset du Parisien l'a interviewé et à un moment, il lui a dit et alors, vous avez peur dans l'année annuelle ? Il dit, je ne crains personne. Et alors après, elle est un peu revenue en disant « Oh, j'avais l'air prétentieuse. » Non, elle a raison de craindre personne. Si elle est dans les 5 dernières, il faut y aller à fond. Hein.
Elle ne l'aura peut-être pas cette fois-ci.
Non, probablement pas. On ne va pas quand même exagérer. Hein, attention, hein.
Alors, non, elle le mérite.
Oui, elle le mérite. Elle est vachement bien.
Ouais, mais les 4 autres aussi le méritent.
J'ai pas tout vu.
Des petits pronos pour les Césars,
je voudrais juste signaler, c'est un film très bien, qui a 3 nominations, dont meilleur film et réalisateur, c'est East End Boys. Le film de Robin Campillo, qui est un très bon film, passé un peu inaperçu, qui a eu deux distinctions majeures, film réalisateur, c'est à sauter, ouais. Et puis Hippocrate aussi a beaucoup de nominations, ouais. Ça je trouve que c'est aussi très...
Alors des pronostics, qui va arriver en tête, parce que souvent ça se partage à l'arrivée, hein. Ça se répartit, il n'y a pas 10, il n'y a pas...
À fond derrière Pierre Ninet, meilleur acteur.
Je pense que ce sera Gaspard Ulliel, moi.
Ça sera mon poteau
Pierre Ninet.
Oh non, tu m'énerves.
Moi je dis que c'est aucun des deux, comme ça, pas de
jaloux. Moi je vais vous dire ce que je pense, c'est que Ninet, il incarne, il invente un personnage, donc je le disais hors micro, l'écorché vif qui se brûle les ailes. Gaspard Ulliel, il est physiquement plus Saint-Laurent, côté gravure de mode, que Ninet, mais il est moins bon acteur, je trouve, dans le film. Il incarne moins, je trouve. Ça, c'est mon... Ça, en dehors de l'amitié que je porte à Pierre Ninet, non, je trouve que le... Voilà, enfin bref. Enfin, c'est un peu la bataille des Saint-Laurent, ça nous gave un peu.
Oui, c'est pour ça que...
Ils avaient qu'à pas commencer. C'est qu'on commence, ils ont déjà...
Je pense quand même, pour le meilleur film, vu tout ce qui se passe, je pense que Timbuktu, pour le César du meilleur film, a de fortes chances.
Laisser les autres s'annuler l'un l'autre. Alors, on va passer aux Oscars. Et les Oscars, c'est juste après. C'est-à-dire que les Césars, je l'ai dit, c'est le 20 février, le vendredi. Et les Oscars, c'est le dimanche 22. Alors là, je vais faire un petit rappel quand même, pour ceux qui nous écoutent. Meilleur film, American Sniper, Birdman, Boyhood, Le Grand Budapest Hotel, Imitation Game, Selma, Une merveilleuse histoire du temps et Whiplash. Voilà. Meilleur réalisateur, Iñárritu, Boyhood, Richard Linklater, Bennett Miller pour Force Catcher, Wes Anderson, Morten Tidlum, ça c'est Imitation Game. Et côté acteur, Steve Carell, Bradley Cooper, Benedict Cumberbatch. Il faut le prononcer son nom. Hein. Michael Keaton, Eddie Redmayne, Une merveilleuse histoire du temps. Et côté actrice, Marion Cotillard, et oui. Felicity Jones.
Felicity Jones, elle est tellement forte dans le film.
Elle est magnifique
dans le film.
Dans le.
Mais lui aussi, hein, tous les
du
deux.
Temps.
Pas
le
film. Sont...
Par contre, vous l'avez vu. Je l'ai vu. Et lui, je l'ai trouvé superbe. Mais ce que elle joue, je au-delà du fait que effectivement c'est moins une performance que ce que fait comment il s'appelle déjà.
Eddie Redmayne.
Merci. Elle, ce qu'elle fait, moi, je trouve ça d'une justesse et c'est tout fin et c'est super beau, quoi.
Il y a Julianne Moore aussi.
Il paraît qu'elle est
super. C'est elle, je pense qu'il va l'avoir, c'est son année. Ouais,
Rosamund Pike pour Gone Girl et Reese Witherspoon pour Wild. Qui a vu Wild?
C'est très très bien et ça.
Antoine est catégorique.
Non, c'est pas bien.
Ouais, moi, j'ai bien aimé.
On fera un débat le mois prochain.
C'est un film de l'année, mais c'est un film correct, un bon film correct et surtout ça. Ça, c'est un peu le comeback de Reese Witherspoon qui s'était un peu perdu dans des comédies romantiques sans intérêt et là elle revient à des films beaucoup plus intéressants avec un vrai sujet.
Mais il manque de scénario quand même. Un vrai sujet sans scénario.
Le 10 février prochain, c'est donc je crois mercredi prochain, non ? Ou mardi. Et on va avoir les lauréats de la 9e édition du Mobile Film Festival. Un mobile, une minute, un film. Le thème est libre, le gagnant du prix, avec le soutien de BNP Paribas, s'il vous plaît, remporte 15 000 euros. Il y aura d'autres prix, comme le prix du meilleur acteur, de la meilleure actrice, le prix des mises en scène, le prix du meilleur scénario, le prix des blogueurs. Vous avez eu la chance de participer au jury
et c'est très intéressant de voir ce qu'on peut faire aujourd'hui avec un mobile. C'est vraiment impressionnant. C'est des vrais films de cinéma d'une minute et il y a des petites perles là-dedans.
Alors il y a des récompenses en dehors des 15 000 euros allant de 500 à 3 000 euros. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site mobilefilmfestival.com et l'événement est en partenariat avec BNP Paribas et We Love Cinema. Et tu avais gagné combien toi Arthur? Tu avais gagné un concours?
J'avais gagné 20 000 balles moi. Non, c'est pas vrai. Non, mais en fait on avait gagné le prix de l'interprétation.
C'est pas mal. Hein.
Et ouais, c'était cool. Et puis moi je savais pas qu'il y avait des sous à prendre en plus parce que nous on a fait ça avec mon beau-frère. On l'a juste fait en s'amusant.
Vous avez fait un film alors?
Ouais, on avait fait un film. Ouais. Il s'appelait... Je viendrai mourir chez vous. Et voilà. Et c'était juste une rencontre entre une victime et un tueur, et qui juste de se donner rendez-vous. Et puis à minuit, l'un tue l'autre. Mais voilà, de manière très, c'est su quoi. C'est super. On mange ensemble. Et puis après, tu me tues. Puis voilà. Puis de toute façon, on est là pour ça. Donc voilà, c'était assez drôle.
Voilà. Bon, donc voilà. Et moi, la prochaine fois, j'essaierai de concourir. On se retrouve dans un instant pour le débat.
La grande séance. Le débat.
Alors on va parler de ce débat, qui est un débat, alors là Arthur peut participer à fond, les trophées, les prix du cinéma, à quoi ça sert? Parce que depuis que je connais presque 30 ou 40 ans les Césars et autres Oscars, on a quand même eu quelques polémiques, le type qui arrivait, qui posait son César, qui n'en voulait pas, qui disait que les compétitions ça sert à rien, genre Bacri, ou j'en sais rien, mais peut-être Bacri l'a pas fait, mais on sait que c'est un râleur. Non mais je sais qu'à chaque fois qu'ils intervenaient, j'ai dit, ah oui Bacri, ils mettaient leur petit son de cloche.
Pourtant ils en ont eu. Hein.
Ouais. Alors on va commencer par toi Arthur, toi tu as été nommé au César du meilleur jeune espoir pour
Bus Palladium.
Et d'abord, être nommé, est-ce que ça avait fait plaisir?
Ah bah oui, mais ça m'a fait hyper flipper aussi.
Ah ouais?
Bah ouais, parce que d'un coup, tu reçois même le guide du nominé.
Ah oui,
le guide? Ah ouais, mais le guide du nominé, c'est-à-dire qu'il faut préparer un discours pas trop long, il faut... Mais c'est normal, parce que c'est une logistique folle, c'est-à-dire que si t'arrives et que d'un coup, tu commences à parler de manière fleuve, les mecs, ils sont un peu stressés autour, ils disent putain, merde, parce que c'est. Parce que la soirée avance. Hein,
aux Oscars, il y a
d'autres choses derrière qui
sonnent. Il y a une musique.
Ouais, c'est ça qui t'arrête. Ils coupent le micro surtout. Mais ouais, mais ça m'avait fait plaisir, bien sûr. C'est vachement grisant, en fait. Parce qu'on se dit, oh, parce que tu n'y penses pas vraiment. Quand tu fais un film, tu ne te dis pas, sauf peut-être des cas exceptionnels où c'est vraiment des gros films, des gros sujets comme Yves Saint-Laurent, sûrement, que Pierre. Je pense que Pierre, il se disait, peut-être effectivement
ouais,
pour le César.
Position, ouais.
Je ne pense pas qu'il l'ait fait pour ça du tout, parce que c'est juste un passionné qui fait son métier super bien. Mais effectivement, je pense que quand on fait un film comme ça, on peut s'y attendre. Moi, Bus Palladium, j'y pensais même pas. Mais.
Et du coup, quand tu, et
des, c'est flippant.
Et du coup, jusqu'au dernier moment, on peut l'avoir. On n'est pas prévenu qu'on l'a pas. On attend.
Ah, du tout.
On est au théâtre du Châtelet.
T'es dans la salle et puis t'es là et puis des caméras sur toi
parce qu'on leur a dit
10e rang, 4e partant de la gauche. Lui, alors le plus loin, lui et lui. Ah, t'as des caméras sur toi et puis tu vois sur l'écran les retours et puis tu et puis il y a et le vainqueur et là tu dis putain et puis c'est pas ouais
après
et puis
pas...
tu te dis oh putain c'est pas moi ah oh, putain c'est pas moi oh ben ça va en fait
ouais, oh, il faut pas avoir l'air dépité faut pas avoir l'air trop dépité dans la face à la caméra
en même temps la caméra elle prend tout donc si t'es dépité et si tu fais genre t'es pas dépité ça se verra et le contraire aussi donc bref
alors la petite anecdote c'est que quand les lauréats montent sur scène après ils vont tout de suite en coulisses pour que les journalistes aient le temps de les interviewer pendant la cérémonie sauf que ça fait des trous dans la salle il y a des figurants qui viennent s'installer. Mais si. Pendant que les gens montent
c'est
sur scène,
génial.
Ça fait tellement de trous.
Ils font un casting des figurants,
bah
genre, il faut qu'un mec ressemble à.
Non, ils font pas un casting.
Wow.
Ils mettent quand même une fille à la place de Marion Cotillard.
Et après, c'est tellement ressemblant qu'elle part avec le César.
Non, mais c'est sûr. Parce que le problème, c'est que les acteurs nommés, enfin, les lauréats, pas nommés, ceux qui ont le César, ils descendent dans la coulisse et nous, les journalistes, on les interviewe, mais ils restent 20 minutes absents. Et comme ça se bouscule au portillon, qu'il y en a plusieurs qui sont absents en même temps, ça dégarnit complètement le théâtre du Châtelet. Et comme la caméra balaye tout, il y a des figurants qui s'en vont discrètement après. Alors, puisqu'on en est au débat, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez un avis?
Oui, moi,
Antoine Corté.
J'ai un avis parce que je me souviens de la victoire, notamment de The Artist aux Oscars et en fait ça avait été un engouement dans les médias le 20h on en parlait partout et ça avait été un peu une fierté nationale qui se reflétait partout les Français étaient fiers voilà on a un film qui est aux Oscars et ça a fait du bien je pense ça a fait du bien on a parlé positivement on a parlé de cinéma et c'était génial
il y a d'ailleurs des films qui repartent après les Césars, il y a des films qui ressortent en salle, ça se fait de plus en plus. Des films qu'on a un peu dégarni les salles, qui sont encore un petit peu, et qui, après les Césars, et s'ils ont des prix, on les remet en salle et ils
font.
Parce
qu'un engouement est possible.
Bien sûr. Ah oui, il y a des films. Ça avait été cas pour Diva. Oui, absolument. Il y a des films qui repartent et qui regagnent. Il y a eu un film aussi, je me demande si c'était pas Police ou justement The Artist, qui a continué
à
faire du nombre. C'est ça, hein?
Qui a continué à faire
du nombre grâce au César. Alors, Tiffany, toi ?
Moi, personnellement, je suis plutôt pour, mais je préfère voir ça comme un... pas trop sérieusement, comme un jeu. Voilà, on a nos chouchous, ils gagnent, on est contents, ils perdent, c'est pas grave. Enfin, je pense qu'il faut prendre ça vraiment de manière très légère.
D'autant plus qu'il y a souvent, je ne sais pas ce qu'en pense Antoine, Julien, cette fois, il y a souvent des surprises un peu bizarres, parce que vous savez comment ils votent, hein, les 4200 ou 3200, 4200 je crois, c'est qu'ils reçoivent 130 coffrets. Tu reçois toi les coffrets, c'est génial Arthur,
c'est génial.
Arthur Dupont. 130
DVD.
Pour être dans les Césars, il faut payer 50 euros par an, mais on reçoit 130
70.
DVD. 70 euros,
ouais.
Voilà. Moi je vais me faire... en tant que journaliste, si je me fais adoubé par deux ou trois parrains, je peux y être. Et sauf que vous voyez pas tout, quoi.
Bah,
et
tu du peux coup, pas tout bah voir. Mais c'est, en fait, tu fais une sélection beaucoup plus large que si tu fais juste une sélection. Tiens, je vais au cinéma dans le civil, je vais dire entre guillemets. Là, tu fais une sélection parce que si tu le reçois et qu'il faut voter, que t'as juste un mois.
Tu vas un peu au pif.
Tu passes pas toutes tes journées.
Il y a des films que tu écartes.
Il y a des films que tu tu n'irais pas voir vraiment,
voilà.
mais vraiment, et dans la catégorie pas du tout. Et puis il y a des films que tu n'es pas allé voir, mais tu te dis, bah, finalement, celui-là, je suis pas allé le voir, mais ça m'intéresse. Et tu le regardes.
Voilà. On est obligé de voter dans chaque catégorie pour les votants.
Oui, les votants votent dans toutes les catégories.
Là,
Antoine, Julien.
C'est curieux, notamment des choix techniques qui sont parfois un peu aberrants. Et dans des prix, par exemple, l'année dernière, bon, il y a eu une razzia pour Guillaume Gallienne, c'était mérité, mais c'était la razzia pour un seul film, alors que d'autres, à mon avis, le méritaient tout autant.
Bien sûr.
Il y a parfois des moments,
il y a des
modes.
Samba, c'est pas un film honteux. Non, ils ont une petite nomination pour Isia Higelin. Babysitting, on aurait pu l'encourager.
Elle est nominée dans les
Isia Higelin dans son meilleur second rôle.
Super, c'est cool.
Voilà.
Et puis t'as l'effet aussi Vie d'Adèle une année et l'année suivante on crache dessus.
Et
Michel Simon, pour ne pas le citer, le super grand critique et cinéphile de Vendieu, qui est patron de Positif, m'a fait remarquer que René n'y était pas du tout. Il n'était pas du tout.
Un hommage lui est rendu au César cette année.
Mais pourquoi il n'est pas nommé?
Nomination, ce qui paraît
c'est quand même vachement bizarre pour son dernier film. C'est super étrange.
Il
n'y
a pas du copinage derrière aussi ces nominations. Moi, je crois pas.
Je crois qu'il y a un peu une.
Il y a parfois une incohérence et c'est vrai qu'on se demande si le métier n'en veut pas à certains. Mais je me souviens toujours de l'exemple de Debat mon cœur s'est arrêté de Jacques Audiard qui a tous les Césars, tout, sauf un seul, Romain Duris, qui porte le film de bout en bout, tous les plans du film et qui n'y est pas, alors que son interprétation est formidable. Donc il y a vraiment parfois des choix un peu incompréhensibles.
Ouais, c'est bizarre. Autre commentaire sur les Oscars et les Césars? Non. Ben on va se retrouver pour notre blind test. Alors là, attention, n'allez pas trop vite. Hein. On se retrouve tout de suite.
Jouez avec la grande séance. Tout de suite, le blind test dans votre émission 100% cinéma.
Alors, vous êtes prêts? Nous avons 9 extraits de films, écoutez bien, et allez-y à fond, dégainez très vite, si je puis dire. Le premier.
Mettez les mains dans les poches.
Saint-Laurent.
Tiffany, un point, on note les points. Attention, le deuxième.
Sandra.
Deux jours et une nuit.
Bravo Antoine Corté. Trop fort.
Les mecs.
Sur quoi? Sur le prénom, ma fille?
Oui, j'ai besoin d'un tour de chauffe.
Attention, on arrive au 3.
Son belle, ces photos.
Merci.
Ah, elle l'adore.
Bravo, Antoine Julien. Ah, putain. La voix de Sandrine Kiberlin.
Oh là là.
Sur le merci de Sandrine Kiberlin. On est d'accord. La quatrième.
Faites comme moi, monsieur, s'il vous plaît, vous écartez les bras.
Hippocrate.
Bravo, Arthur Dupont, trop fort. Ça fait un chacun, là. Super. Ouais. Attention, on est au quatrième. Vous en avez encore 4 pour vous. 1, 2, 3, 5 pour vous. Un peu plus compliqué.
Ils ont abandonné leur travail, leur confort, leur famille.
Diplomatie.
Ils
bravo, Arthur Julien. Bien. Diplomatie de Volker Schlöndorff, hein, avec Nissa Restrup et celui qu'on a entendu, c'était Dussolier, notre copain, notre ami. Attention. Ah ouais, plus. Difficile et pas. Difficile et
monsieur.
Non.
Monsieur.
Ouais, là, on entend. Monsieur,
excusez-moi, j'ai cru que vous étiez mort.
Oui, mais c'est très important de savoir faire le mort dans la vie.
On va laisser là.
Bonjour. Je m'appelle Charles.
Lulu Famnu, non?
Bravo.
C'est le Vegan Spack.
Comment tu appelles ça?
Trop fort.
Lulu Famnu, c'est Lulu Lanners qu'on entend.
C'est un très joli film avec Lulu Lanners et Karine Viard. D'accord. Ouais, elle parle à la dérive, c'est ça. Hein. Donc
trois, Famnu. Trois, toi.
Bien, Antoine. Pour une première émission, il est fort. Hein. La septième.
Eastern Boy.
On a fini les maths et la chimie, fait qu'on a improvisé maintenant.
C'est québécois, quoi, mais...
J'ai remarqué qu'il y avait gain moins, là.
Ah, putain. Machin à la ferme, là c'est... Non.
Momie. Il t'a aidé, Tiffany. Putain, mais personne ne vous entendait un son québécois. On parle de 2014. Vous entendez une voix avec l'accent québécois à couper au couteau et vous pensez pas à Momie. L'un des plus beaux films de l'année, quand même, non?
Ah oui.
Non, Antoine Corté, non?
Non, je pensais que c'était du Manouche.
Attention, ça va être facile, là. Alors, attention, on se calme. C'est parti.
Arrête de klaxonner.
Café du Bélier.
Tu l'as pas vu encore. Arrête de klaxonner, moi, je n'aurais pas reconnu. Ah, un film que j'ai adoré. Un des plus jolis films que j'ai vus français cette année, mais voilà, moins porté au nu.
Je sais pas ce que ça raconte, mais c'est avec Jennifer Aniston.
Ah, pas son genre. Parce que la comédie,
bravo.
Pas son genre.
C'est un super, c'est un petit bijou. Où Emily Deakin est. Alors, elle a été nommée, j'espère, dans les actrices.
Oui, elle est nommée.
J'ai eu peur.
Je crois que c'est la seule nomination du film, d'ailleurs.
La seule nomination du film, oui, parce que pas son genre, quand même. C'est un très très joli film de Lucas Bellamy. Eh bien, mes amis, on va bientôt se quitter dans quelques minutes, dans un instant.
Vous écoutez La Grande Séance. L'émission 100% cinéma en live sur Séance Radio. Séance Radio.
Donc voilà, on va se retrouver début mars prochain, c'est ça, on est en février. Je vous rappelle que La Grande Séance, eh ben, c'est tous les premiers mardis du mois de 19h à 20h en direct. Notre invité aujourd'hui, c'est Arthur Dupont. Et il faut que je vous dise un mot, parce qu'on vient de parler des Césars, mais à Séance Radio, il y a un concours. N'est-ce pas, Nicolas ?
Oui, effectivement, on a un grand concours assez exceptionnel. On vous fait gagner une invitation pour deux personnes pour assister en direct du Théâtre du Châtelet à la cérémonie des Césars.
Wow.
Alors pour ça, il faut suivre le compte Séance Radio sur Twitter et il faut tweeter avec le hashtag Séance Radio César. Et donc un tirage au sort sera effectué le 13 pour gagner ces deux places.
Oh, c'est génial.
Super.
Vous allez être au Théâtre du Châtelet ou dans les coulisses avec un petit Nagra pour refaire des interviews ?
Smoking et tout.
Ah, smoking et tout. Alors il faut expliquer que au César, quand on a le bonheur d'être invité à l'intérieur du Théâtre du Châtelet, on a une invitation, donc il faut être super habillé avec smoking et tout. On a une invitation pour aller au fumoir, hein, une heure avant, et pour aller boire un verre avec les stars, quoi. Entre 19h30 et 20h30.
Je raconterai tout.
Ah ouais, il faudrait que vous soyez en direct sur, sur Goom Radio, sur Séance Radio. Nicolas, vous nous rappelez comment on intervient dans l'émission? Ils n'ont pas été nombreux à intervenir aujourd'hui?
Non, ils n'ont pas été très nombreux. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui ont parlé de Foxcatcher pour dire que c'était effectivement très, très lent et très, très chiant.
Ah bon,
c'est impossible.
Vous êtes d'accord ou pas?
Oh, pas du tout.
Ah oui,
c'est formidable, c'est un grand film.
C'était la réaction principale de la soirée.
On aurait dû faire un débat sur Foxcatcher.
Et en tout cas, pour participer en permanence, c'est le compte Twitter Séance Radio.
Voilà. Et n'oubliez pas donc que toute la semaine, on peut écouter Séance Radio avec des tas de musiques de films, puisque c'est une radio entièrement et la seule sur le web consacrée au cinéma. Et que du lundi au vendredi, de 14h à 17h, eh bien, Betty Mourag vous accompagne pour une après-midi consacrée au cinéma, avec des infos, des actualités exclusives, des anecdotes, des interviews, le tout au rythme des plus belles musiques de films. Donc ça, c'est tous les après-midi sur Séance Radio. Un dernier mot, Arthur Dupont, puisqu'on va se quitter dans 30 secondes. Donc, les prochains projets, c'est Kerviel. La musique, ça, c'est
la
sûr.
La musique, un film de Lionel Stecchetti, qui s'appelle Seconde Chance.
C'est un premier film ?
C'est un troisième film. C'est le réalisateur de Casse Départ et du Crocodile de Botswana.
Ah, quand même.
Et ça n'a rien à... Oui, une comédie romantique sur fond de science-fiction. Et c'est très drôle.
Super, voilà. Merci Arthur Dupont d'avoir été notre invité, merci à tous.
Merci à vous.
Et
merci,
on se retrouve en mars prochain.
Et bravo à Antoine Julien.
Merci.
C'était La Grande Séance, l'émission live 100% cinéma. Retrouvez Bruno Kras et toute son équipe sur Séance Radio par BNP Paribas.